Dans le cadre des élections municipales, dont le premier tour aura lieu le 15 mars prochain, nous recevons, en partenariat avec toutes les nouvelles et en la personne de Philippe Cohen, bonjour Philippe.
Bonjour Jean-Marc.
Nous recevons Monsieur Ozanam, qui conduit la liste Protégeons les Essarts. Monsieur Ozanam, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'objectif de cet entretien, ça va être justement de permettre à nos auditeurs essartois, en l'occurrence, de mieux faire connaissance avec vous. Et Philippe, je crois que le premier aspect qu'on peut évoquer avec notre invité, c'est connaître son parcours, d'où il vient.
Oui, connaître son parcours. Apparemment, vous êtes venu aux Essarts parce que vous vous intéressez au patrimoine des Essarts. Vous avez eu un coup de cœur pour cette ville et pour un bâtiment en particulier.
Oui, alors plus exactement, à l'époque, je me suis rapproché de mon travail où j'avais changé de travail et je travaillais à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on a recherché une commune correspondant à nos attentes, esprit rural, proche de la campagne, avec un petit peu d'espace et un milieu de vie pour nos enfants. Et nous avons loué pendant quelques temps une maison remarquable, la maison Coudouin, qui est à côté de l'usine Coudouin, une maison art déco des années 30 qui mérite le coup d'œil. Et nous avons eu l'occasion d'apprendre que l'ancienne poste des Essarts, qui était à l'origine l'ancienne école des filles, était en vente. Et nous nous sommes attachés à cette maison qui représente une part de l'histoire des Essarts.
Et ça, c'est après un parcours de vie où vous avez travaillé dans différents domaines. Vous pouvez nous raconter votre parcours de vie qui est assez intéressant.
Oui, effectivement, j'ai eu une vie professionnelle riche et variée. J'ai commencé à 14 ans comme ouvrier stagiaire agricole. À 23 ans, je suis devenu commerçant indépendant en aquariophilie. À 35 ans, je suis rentré dans le secteur de l'automobile, d'abord dans une petite entreprise, 80 personnes, ensuite chez un équipementier automobile avec 8 usines et 4500 personnes. Les restructurations du monde automobile m'ont amené à 49 ans à changer d'orientation et je me retrouve aujourd'hui dans un grand groupe français dans le domaine de la mobilité électrique, où je suis désormais cadre dirigeant après avoir géré le service SAV pendant quelques années.
Un parcours, je dirais, assez éclectique.
Tout à fait. Autodidacte sur plein de choses. Je ne suis pas formaté sur le mode de pensée, différentes orientations, différents milieux et à chaque fois des enseignements. Le service au client, la notion de service, l'efficacité, la rigueur et la gestion.
Vous êtes père d'une grande famille aussi?
Alors, grande famille, c'est relatif, hein, parce que aujourd'hui, effectivement, 6 enfants, c'est considéré comme une grande famille. Mais il n'y a pas de bon nombre pour le nombre d'enfants. C'est ceux qui arrivent, c'est ceux que l'on peut accueillir. Je suis bientôt grand-père d'un 7e petit enfant. Et c'est cette notion de transmission et de famille qui me plaît aussi aux Essarts. Cette vie familiale que l'on retrouve aux Essarts.
Bah, vous avez précédé, en fait, ma question, parce que tout ce parcours que vous venez de nous décrire, il a son importance. Est-ce qu'il vous sert pour vous intéresser aux différents aspects de la ville des Essarts, j'imagine.
Oui.
Dans la démarche.
Alors, dans la démarche, effectivement, lorsque l'on apprécie quelque chose, on souhaite le transmettre. Aujourd'hui, les Essarts que l'on a connus, dans lesquels on vit depuis bientôt 25 ans, nous ont apporté beaucoup, ont apporté beaucoup à nos enfants, et on souhaite que cette qualité de vie, ce style de vie, les futurs Essartois, à naître ou à venir, le retrouvent. Cette ville à taille humaine qui a conservé son esprit village, il faut le préserver. On se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins avec un risque d'urbanisation et de densification massif du centre-ville. C'est ce centre-ville qui aujourd'hui a préservé l'esprit village malgré l'augmentation de la taille des Essarts. Depuis 68, on est passé de 2000 à pratiquement 7000 habitants par l'ajout de ce lotissement successif, mais ces lotissements n'avaient jamais impacté le centre-ville. Donc l'esprit des Essarts était préservé. Aujourd'hui, on voit arriver des permis de construire avec des immeubles de 40 et 50 mètres de long sur 16 mètres de haut. Tout ça sans que les Essartois n'aient été consultés et on va tuer l'esprit village.
Votre engagement, il vient du plan local d'urbanisme. Expliquez-nous comment ça a débuté et où en est ce plan local d'urbanisme.
Vous faites partie d'un collectif, c'est ça à l'origine?
J'ai fondé le collectif Protégeons les Essarts par effectivement réaction au PLU. Lorsque on a découvert que la municipalité avait préparé un PLU depuis juin 2022, mais en fait, il y avait des prémices auparavant, sans le présenter aux Essartois. La première fois que les Essartois en ont entendu parler, c'est une réunion publique à la mairie en septembre 2024. J'ai été à cette réunion publique parce que je voulais signaler à la mairie que la maison que l'on avait louée en arrivant aux Essarts, la maison Coudouin, était une maison art déco qui valait le coup d'être protégée et qu'il fallait éviter de la passer au bulldozer. Et j'ai eu la surprise énorme d'apprendre, lors de la présentation, en voyant les slides, que en fait, même mon domicile, l'ancienne école des filles, l'ancienne poste des Essarts, était passé au bulldozer dans leur projet pour être remplacé par des immeubles de 18 mètres de haut à l'époque, Et j'ai trouvé ça complètement hallucinant. Je me suis documenté, je me suis renseigné, j'ai avalé toute la législation et j'ai découvert qu'une révision du PLU aurait dû être faite en concertation avec les habitants dès le début des études. Donc la procédure de révision qui a été adoptée en excluant les habitants n'était pas conforme aux termes de la loi.
Dans ce plan local d'urbanisme, pour ceux qui ne connaissent pas les SR, quels sont les points sur lesquels vous avez alerté les habitants ?
Outre le fait que le patrimoine n'est pas protégé, le petit patrimoine, on n'a pas de monument aux SR, mais ce qui fait l'esprit, ce sont les maisons anciennes et on n'a plus que 9% de maisons anciennes aux Essarts, c'est très peu. Donc l'absence de protection du patrimoine, la volonté de transformer le centre ancien malgré un discours inverse, c'est-à-dire qu'on a un discours dans le PLU qui est bien tourné, on préserve le centre ancien, mais préserver le centre ancien, c'est le confier aux promoteurs. Et les promoteurs, leur but, c'est de faire de l'argent.
Pour compléter les questions que vous pose Philippe, si vous êtes élu maire, de quelle façon vous allez aborder cette question qui est fondamentale, si j'ai bien compris, du PLU ?
Le PLU, on va le réviser. Alors, ça va être un peu technique, je m'en excuse, mais le PLU, il y a plusieurs éléments. Il y a le PADD, le plan d'aménagement durable, de développement durable, et le règlement écrit, les EAP. Le PADD est bon. Les intentions affichées sont bonnes. Ce sont les réalisations, la mise en œuvre qui est mauvaise. Donc, il nous suffira de faire une révision simplifiée du PLU pour corriger les excès et ramener ce PLU à une dimension humaine, permettre que les essarts évoluent en respectant l'esprit des essarts. On a eu des réalisations aux Essarts, par exemple, juste en face de la gare, la rue de la Cité, vous avez des immeubles récents qui respectent l'esprit des Essarts, qui sont des R1 combles et qui s'intègrent parfaitement dans l'esprit des Essarts. Il faut continuer à construire en respectant cet esprit des Essarts, permettre un développement raisonné, raisonnable, où les gens pourront continuer à trouver ce qu'ils apprécient aujourd'hui aux Essarts.
Dans le sud d'Yvelines, il y a les injonctions de l'État, la loi SRU, les pénalités. Comment faire pour faire un aménagement urbain en tenant en compte ces contraintes de l'État.
Pour compléter souvent des injonctions contradictoires, comment vous allez faire ?
Alors, déjà, on parle beaucoup des pénalités de la loi SRU, les pénalités de la loi SRU. Je rappelle qu'elle ne pénalise pas la non-atteinte du taux des 25% de logement, elle pénalise la non-progression vers ce taux. Aux Essarts, les anciens maires, depuis que je suis arrivé, ont tous fait des projets et des réalisations. Thierry Grosjean, la Villa Romaine, Jacques Boucher, le quartier de Montregard. Raymond Pommet avait fait la phase 1 du château d'eau avec 18 logements qu'il ne restait plus à construire au début de la mandature du maire actuel, qui a bloqué ce projet en voulant l'augmenter en transformant des réalisations raisonnables dans l'esprit du village en une barre d'immeuble de 63 mètres de long que les riverains ont rejeté et contre lesquels une procédure a été lancée qui a bloqué depuis 4 ans et demi ce projet et donc il n'y a pas eu de logements sociaux réalisés aux Essarts depuis 12 ans. C'est ça que l'État pénalise. Le problème, c'est qu'au début de la mandature, les pénalités étaient de 70 000 euros par an. Aujourd'hui, effectivement, on n'arrive plus trop à savoir, elles sont de 160 à 180 000 euros par an, mais c'est parce que plus rien n'a été fait. Ce qui est incompréhensible, c'est d'avoir laissé cet argent se perdre puisque la loi SRU prévoit que chaque commune peut récupérer de droit le montant de ses pénalités pour réaliser des logements sociaux. En récupérant ces pénalités et en réalisant des petits projets de logements sociaux, on se remettait en progression et en se remettant en progression, les pénalités se stabilisaient, voire même diminuaient. Nous avons même pire, la loi SRU prévoit que les bailleurs sociaux, dans une municipalité en carence, le maire peut interdire la vente des logements. Vous savez que les bailleurs, lorsque les logements deviennent un peu anciens, qu'il y a des travaux à faire, ils revendent les logements sociaux. Et on a aux Essarts des bailleurs qui sont en train de vendre des logements et donc on a potentiellement un taux qui est en voie de diminution. Il faut inverser. Effectivement, si les Essartois nous confient la mairie, on commencera déjà par interdire aux bailleurs de céder les logements sociaux tant que la commune est en carence. On leur demandera de faire des travaux et on verra avec eux pour rénover le parc social et l'augmenter en cohérence avec l'esprit village. C'est faisable. Il y a de la place, il y a des choses qui peuvent évoluer. Et les logements sociaux, ce ne sont pas que des HLM. Il y a des résidences pour personnes âgées que l'on peut faire, qui peuvent être considérées. Il y a des résidences pour étudiants que l'on peut faire, qui peuvent être considérées comme intégrées dans la loi SRU. Donc il y a toute une réflexion à mener, une vraie réflexion à mener sur la loi SRU. Et notre vision de la loi SRU, c'est une vision qualitative. Dans le PLU, il prévoit la phase 2 du château d'eau, qui va faire 42 logements, 42 pavillons et 18 logements sociaux. Ces 18 logements sociaux se retrouvent relégués en fond de parcelle le long de la voie ferrée dans un immeuble. Ce n'est pas ça l'insertion. La mixité sociale que prône la loi SRU, c'est une vraie mixité sociale. Dans cet ensemble, il aurait fallu prévoir des petits logements. Alors on ne peut pas offrir effectivement des vastes maisons pour les logements sociaux, mais des petits logements répartis au sein du lotissement pour que les logements sociaux s'intègrent véritablement. Si vous voulez que les logements sociaux s'intègrent totalement dans la vie du village, il faut leur offrir la même vie que leurs voisins. Si vous les mettez dans des immeubles où de leurs fenêtres ils voient les gens se promener dans leur jardin de 400 mètres carrés, ça ne va pas le faire.
Une question sur l'urbanisme pour placer les Essarts-le-Roi dans la zone géographique de ce qu'on appelle le Sud-Yvelines. Tout ce qui se passe au niveau d'urbanisme des Essarts a des conséquences aussi à l'échelle de Sud-Yvelines, parce qu'on a la frontière avec Coignières, avec la ville nouvelle.
Tout à fait. C'est la particularité des maires qui ont précédé Ismaël aura été de savoir préserver l'esprit village et l'aspect rural des Essarts en arrêtant la ville nouvelle à Coignières. Il y a longtemps de cela, il y avait eu des discussions à savoir si on rejoignait Coignières et les communautés de communes ou si on partait soit du côté de Chevreuse, soit du côté de Rambouillet-Territoire. En partant du côté de Rambouillet-Territoire, les Essarts ont clairement fait le choix de rester dans la partie rurale. Les Essarts, c'est la sortie du Grand Paris avec Coignères et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'entrée de Rambouillet-Territoire, mais aussi porte de la vallée de Chevreuse. Nous sommes au sein du parc de la vallée de Chevreuse et je trouve dommage qu'on ne valorise pas suffisamment cette caractéristique. Le parc naturel de la vallée de Chevreuse propose énormément de supports aux communes pour valoriser et s'aménager, pour respecter cet esprit porte du parc, et les Essarts n'en ont jamais profité. Le parc avait proposé d'aider les communes à faire l'inventaire de leur patrimoine vernaculaire, hein, les petites maisons, les maisons en meulière, les maisons de villégiature. Tout ça, ça n'a jamais été fait. Il est temps maintenant d'entrer et de travailler en concertation avec le parc pour l'aspect naturel et pour l'aspect patrimonial.
Alors, il y a d'autres aspects dans cette amélioration du quotidien. Il y a notamment la question des établissements scolaires. Et puis une question qu'on rencontre de façon générale aussi, mais peut-être avez-vous une façon de l'aborder, la question de la sécurité et de la prévention.
Alors, on va commencer par les écoles, si vous voulez bien, parce que c'est vraiment un des sujets qui nous a été remonté très, très fortement par les Essartois. Pendant toute notre campagne de protestation contre le PLU, on a reçu énormément d'Essartois, on a énormément échangé, et les gens ne se contentaient pas de nous parler du PLU et de l'urbanisme. Ce qui les intéressait, et à juste titre, c'est aussi leur vie quotidienne. C'est l'absence de réponse à toutes les questions qu'ils posaient à la mairie, c'était les problèmes d'entretien des écoles, l'état d'un certain nombre de bâtiments, l'absence de chauffage, des toilettes dans des états assez impressionnants. Alors tout ça, ce sera à vérifier si les Essartois nous confient la mairie, mais c'est quand même relativement inquiétant. On a une vision où, avant de prévoir des grands projets et des grands travaux, il faut déjà assurer le quotidien, et dans les priorités, dans notre ordre de priorité, ce sont les enfants, c'est notre futur. En second lieu, les seniors, parce que c'est notre passé, c'est eux qui ont fait notre vie d'aujourd'hui et on leur doit le respect et l'assistance normale. Et ensuite, nous. Nous, parce que finalement, on se doit d'assurer pour les enfants, on se doit d'aider les seniors, et on passe après tout le monde. Il faut qu'on remette de l'ordre, il faut qu'on remette l'argent de la municipalité là où c'est utile. Aux Essarts, aujourd'hui, il y a un jeu sur les réseaux sociaux avec les nids de poules. On doit être champion des Yvelines des nids de poules. En période de pénurie d'œufs, ça peut peut-être servir, mais pour les Essartois, c'est assez embêtant. Ils sont nombreux à casser des jantes ou à abîmer des trains de voiture sur nos nids de poules. Il faut revoir. Refaire des rues intégralement, c'est peut-être électoralement porteur, mais c'est pas très efficace. Il faudrait mieux faire de l'entretien et refaire de bonnes réparations partout.
Vous parliez le début de l'esprit village. De quelle manière voulez-vous entretenir cet esprit village, la vie entre les habitants?
Aux Essarts, on a une vie associative qui est très développée. Il faut la maintenir, il faut l'accentuer, et puis surtout, il faut lui donner de la visibilité. Cela fait 6 ans que dès que quelque chose se passe aux Essarts, la mairie s'en empare et donne l'impression que c'est elle qui a tout fait. Or, c'est pas vrai. Ce sont les associations, c'est le comité des fêtes, qui est distinct de la mairie, qui existe depuis très longtemps, contrairement à ce que l'on a pu entendre ou lire. Le comité des fêtes a plusieurs décennies d'existence. Les associations qui sont très actives et qu'il faut soutenir. Mais le meilleur moyen de soutenir les associations, c'est de leur donner de la visibilité. Si elles disparaissent systématiquement derrière les publications de la municipalité, les bénévoles ne se pressent pas. Le meilleur moyen d'assurer un renouvellement des bénévoles dans les associations, c'est de leur laisser le bénéfice de leurs prestations, de leur animation, les mettre en valeur et les aider.
L'autre aspect que vous aviez commencé à évoquer, c'est par exemple en matière de sécurité, de prévention, c'est notamment renforcer la police municipale.
Oui, c'est évident, la police municipale, alors là, c'est la sécurité, il faut la voir au sens large. C'est pas que la sécurité sur les incivilités, les cambriolages ou autres, c'est également la sécurité routière. Et là, la police municipale pourrait être efficace à condition d'avoir plus qu'un seul agent. Un agent ne peut pas intervenir tout seul. Alors pour mettre des PV, ça peut aller, mais dès qu'il s'agit de maintien de l'ordre, il faut au minimum être deux sur chaque intervention. Et si on n'a que deux policiers, ben ils ont droit eux aussi, et c'est normal, à des congés. Ils peuvent être malades, et donc avoir trois policiers municipaux, c'est un minimum si on veut avoir une police municipale efficace.
Et la vidéosurveillance, faut-il la développer? Est-elle mise en place?
D'ailleurs, quel terme faut-il choisir? Vidéosurveillance ou vidéoprotection? C'est une nuance de taille.
Alors, malheureusement, c'est pas de la vidéoprotection, c'est de la vidéosurveillance que l'on a aujourd'hui aux Essarts, qu'il vient d'être installé. Alors, tout n'est pas installé, hein, puisque je crois qu'il y a 5-6 caméras sur une trentaine de prévues qui aujourd'hui sont installées, et le déploiement va se poursuivre. C'est une bonne chose. Ça permet à la police nationale de récupérer les images a posteriori pour essayer d'identifier les fauteurs de troubles. Mais la vidéosurveillance ne fonctionne qu'a posteriori. Il faut développer d'autres moyens, il faut développer d'autres notions. Et comme dans tout problème, il n'y a jamais une solution miracle. Il y a plusieurs solutions à mettre en œuvre. Mettre en œuvre des réseaux de voisins vigilants qui pourraient prévenir la police municipale lorsqu'il y a des véhicules suspects. Avoir des réseaux de voisins qui s'entendent lorsque les uns partent en vacances, ils se préviennent, ils surveillent un petit peu les voisins. Enfin bref, il faut voir avec chaque quartier, parce qu'on a des quartiers qui sont très différents les uns des autres. On a des quartiers où vous voyez les maisons, donc c'est facile de surveiller. On a des autres quartiers où il y a des grosses haies devant les maisons et c'est pas possible de surveiller. On a des copropriétés qui pourraient installer elles-mêmes des caméras de surveillance et donner accès à la municipalité. Il y a plein de choses à faire et à voir. Il n'y a pas une solution. Aux Essarts, nous ne sommes pas dans une situation catastrophique. On est dans la moyenne départementale du taux de délinquance. On pourrait faire mieux. On a des communes voisines qui ont des meilleurs taux que nous, donc on peut améliorer. Donc, il faut traiter, mais sans dramatiser.
On va arriver presque au terme de cet entretien. Philippe, une question complémentaire peut-être avant de venir au mot de la fin.
Dans l'organisation de l'équipe, quelles sont les compétences que vous avez choisi de regrouper?
Alors, la liste est issue du collectif en très grande partie. Mais nous avons également été chercher quelques compétences extérieures pour compléter l'équipe du collectif. Nous avons cherché à avoir des personnes qui avaient soit des compétences professionnelles pour les rôles qu'on allait leur donner, soit des connaissances. Par exemple, pour le scolaire, nous avons deux mères de famille qui fréquentent les écoles au quotidien et qui sont impliquées dans les associations de parents d'élèves et qui connaissent parfaitement les sujets. Pour le sport, c'est une bénévole active dans les associations sportives des Essarts qui connaît bien le système, qui connaît bien les présidents d'associations sportives et qui va pouvoir travailler avec les associations sportives. Notre municipalité sera organisée sur le principe de binôme, c'est-à-dire qu'on nous aurons des adjoints et avec à chaque adjoint sera donné un conseiller délégué pour pouvoir amplifier la capacité de travail du conseil municipal et être plus efficace. Le but, c'est aussi d'avoir moins recours au cabinet de conseil qui coûte très cher aux Essartois et que cet argent puisse être consacré à des travaux et non pas à des cabinets de conseil. Faire travailler plus le conseil municipal en concertation avec les Essartois. Nous appellerons également, pendant toute la durée du collectif, j'ai eu des Essartois de différentes professions qui sont venus nous dire « Mais moi, je connais ça, je suis ingénieur dans le BTP, s'il y a des projets, je suis prêt à participer. » Et donc, nous irons chercher les compétences auprès des Essartois pour concevoir ensemble les projets.
Juste avant d'en venir au mot de la fin, un point important, puisque dans votre programme, vous voulez mettre en place une recherche active pour des professionnels de santé. Et c'est-à-dire que vous voulez installer aussi, par exemple, une maison de santé. C'est un sujet sur le Sud-Yvelines qui est assez sensible.
Oui, on m'a remonté il n'y a pas longtemps qu'un médecin, fin d'année dernière, souhaitait s'installer aux Essarts et qu'il a renoncé devant le prix des loyers de notre cabinet médical qui aurait été trop élevé. On s'interrogera sur le montant de ces loyers et sur l'adéquation de cette maison médicale qui a été développée il y a déjà de nombreuses années par Jacques Boucher. Il est peut-être temps de prévoir un autre projet. Beaucoup de personnes se plaignent sur cette maison médicale du manque de confidentialité avec une isolation phonique inadaptée et il faut probablement revoir ça réellement. Aujourd'hui, on ne veut pas promettre monts et merveilles aux Essartois. On travaillera et les problèmes seront traités les uns derrière les autres en concertation intentions et avec les Essartois, mais on ne va pas dérouler le catalogue de promesses que l'on voit fleurir à chaque élection par certains politiciens qui ne sont pas respectés. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des citoyens, et nous sommes des citoyens décidés à travailler pour notre village.
Monsieur Ossanam, nous arrivons au terme de cet entretien. On va vous laisser le mot de la fin de cette rencontre.
Eh bien, les membres du collectif, et a fortiori ceux de la liste, nous aimons nos essarts. Nous souhaitons que les essarts, non pas restent figés tels qu'ils sont, mais s'améliorent encore. Et nous pensons que cela peut se faire dans l'esprit des essarts pour, dans 6 ans, dans 12 ans, dans 18 ans, avoir des essarts qui soient toujours aussi agréable à vivre qu'aujourd'hui pour les générations futures, celles qui vont naître aux Essarts et également celles qui vont y venir.
Monsieur Ossanam, merci d'avoir participé à cet entretien dans le cadre de la campagne des élections municipales. Je rappelle que vous représentez la liste Protégeons les Essarts. Vous vous présentez donc au scrutin du 15 mars. On va remercier Philippe Cohen de toutes les nouvelles. Merci Philippe.
Merci à monsieur Ossanam et merci Jean-Marc.
Oui, monsieur Ossanam.
Et un dernier point, 2 listes, donc un seul tour, le 15 mars, votez.
Merci.